Alors, venant à la grande question de finir l'entrevue, et c'est la question de juger. Vous avez vu la question venir. C'est est-ce que, dans votre jugement, c'est quoi les grandes réussites et les grandes faiblesses de la Convention, vu l'âge?
Je commence par les succès et j'en prends un. Le rapport, ça m'a fait grand plaisir, le rapport qui vient d'être fait sur Angkor, patrimoine mondial au Cambodge. Vraiment, je suis heureux et ravi parce que j'ai vu comment un site qui a été inscrit, et je le dis parce qu'en 92, j'étais président, Santa Fe, nous l'avons inscrit alors qu'il sortait de la guerre, il était miné, 40 000 hectares sans aucun. Qu'une administration pour les gérer, sans argent, c'était un défi. C'était un véritable défi. Et il y a eu une grande, grande controverse que je résume en deux mots. Est-ce qu'on inscrit pour sauvegarder ou on sauvegarde pour inscrire? Pourquoi encore il faut le mettre sur la liste? Parce que c'est comme ça qu'on assure sa sauvegarde. Ce défi a été gagné, je dois le dire. Moi, je suis très content. Pourquoi ce défi a été gagné? Parce que le comité, on a inscrit et puis on a mis liste des patrimoines en péril. Et puis on a mis les cinq grandes conditions pour que un jour ils sortent du péril. Un, il faut avoir un organisme, une administration, un office, quelque chose pour la gestion nationale. Et on l'a eu. C'était 92, 94, création. Plusieurs sont là dans la réunion de ce qu'on appelle APSARA, l'autorité nationale pour la sauvegarde d'Angkor et de la région d'Angkor. C'est un organisme extraordinaire où il y a des architectes, des archéologues, des ingénieurs, des hydrauliciens, des forestiers. Ils ont pris méthode, exemple sur Park Service, où ils ont des sortes de rangers et bien équipés qui font le tour parce que la moitié du site, c'est une forêt. Et une partie de la forêt est une forêt tropicale pour éviter qu'on coupe les arbres, mais aussi parce qu'elle fait partie du paysage, et c'est l'un des premiers sites où on a appliqué la notion de paysage culturel. Alors, tout ça a donné cet organe APSARA, au bout d'une quinzaine d'années, c'est vraiment un modèle, il fonctionne très bien. La quatrième, je reviens aux conditions qui ont été remplies, créer un système international de coopération. Et vous avez fait un rapport, vous connaissez bien les choses, etc. Parce qu'elle a fait un rapport sur Angkor, comme vous savez, et qui a beaucoup aidé, dans ce sens que maintenant, il y a 23 pays qui participent à cet effort international, et ces équipes sont chacun un drapeau, bien sûr, mais ils coopèrent, ils travaillent ensemble. Il forme les gens, et c'est le dernier point, la formation sur place, pas seulement la formation universitaire. Cette inscription qui s'est faite sur un site miné, on a passé 9 ans à déminer et à former des gens de déminage. Et on a restauré plus de 40 monuments. On a fait des fouilles pour mettre en valeur, etc. Et maintenant, du point de vue du tourisme, on est passé de, il y a 10 ans, ils étaient 350 000, maintenant ils sont 2 millions. Et ce site est immense, il peut recevoir plus. Mais pour dire, avec tous les moyens, petit à petit, c'est aussi la réussite, c'est que ça ne s'est pas fait d'un coup. Ça s'est fait peu à peu, et donc les gens ont appris leur travail sur le terrain et ensemble. l'hydraulicien avec l'archéologue, l'archéologue avec le sociologue, etc. Ça, c'est un exemple que je trouve de grande réussite. Au verre de la médaille, c'est la rançon, ce que j'appelle la rançon du succès. Dans les pays en développement, comme le patrimoine mondial est prestigieux, tous les moyens qui ne sont pas énormes sont mis pour le patrimoine mondial. Et donc, nous avons un patrimoine à deux vitesses. Nous avons, et je citerai ça pour pays, certains pays arabes, pays, certains pays africains, certains pays d'Amérique latine, où les moyens financiers et les ressources humaines sont concentrés dans le patrimoine mondial. Parce qu'il est prestigieux et parce qu'il est la vitrine. Et du coup, vous avez une perte de patrimoine, alors que la Convention dit, ce n'est pas parce qu'un bien, vous connaissez tous, c'est pas parce qu'un bien n'est pas sur la liste du patrimoine mondial qu'il peut être considéré comme n'ayant pas de valeur extraordinaire, universelle. Ben non, pour eux, où il est patrimoine mondial. Et on a cette grande difficulté. Et la seconde chose, c'est que, malheureusement, le patrimoine est devenu, à cause du succès, lié au prestige national et à l'identité. Donc, il y a risque pour le patrimoine mondial, et c'est pour ça que peut-être il y a une action que doit mener le comité, que doit mener le centre, et même l'UNESCO en général, dans sa conférence générale, etc., de faire appel au respect, non pas seulement de la diversité culturelle, au respect du patrimoine mondial, où qu'il soit, et quelle que soit la référence culturelle. Ce n'est pas que moi, parce que moi je suis musulman, que je dois détruire une synagogue. Ce n'est pas parce que je suis juif que je vais détruire une mosquée. Et il faut que ça soit dit et répété, parce que sinon, chacun va se recroqueviller sur son patrimoine, et dire, ouais, magnifique mon patrimoine, et du coup, cette idée qu'on développe chez nous tous de dire, c'est d'égale valeur, Notre-Dame de Paris et la cathédrale de Prague, et la mosquée du Caire, etc., sont sur un ensemble que nous appelons le patrimoine mondial, et donc on les respecte et on les rapproche. Si on ne fait pas un effort pédagogique, et finalement, cet effort pédagogique est essentiel, nous risquons que le succès du patrimoine nous amène à l'orgueil national et à l'identité. Et donc, outre le danger du patrimoine à double vitesse que nous avons dans les pays, surtout les pays pauvres, de l'autre côté, le patrimoine identitaire, avec l'exclusion. Je garde ça et je garde ça. Et je ne sais pas si vous pouvez l'écrire, mais moi je vous le dis pour finir. Le patrimoine qui est justificatif. Comment on a pu détruire une partie de Lhasa? C'est au nom du patrimoine mondial. L'argumentaire de la Chine, c'est de dire, moi je vais mettre en valeur le patrimoine mondial. Donc ils ont mis en valeur le patrimoine. Mais tout autour, ça a été démoli. Et on a gardé, au nom du patrimoine mondial, on a démoli plus de la moitié de la ville pour mettre autre chose. Et donc maintenant, quand vous arrivez à Lhasa, vous avez, c'est vrai, il y a de belles réalisations, mais on a débarrassé de tout ce qui... Ça, c'est aussi l'un des aspects de déviation de la patrimoine mondial. Mais enfin, là, nous entrons dans ce que j'appelle la grande politique et les problèmes. Et comme l'UNESCO est une organisation d'État, et comme organisation d'État, il est bien évident que, quelquefois, c'est limite. Le comité ne peut pas. S'il s'adresse à l'UNESCO, qui est la gardienne par son directeur général de la Convention, que vous voyez l'UNESCO faire des remarques politiques à des États, c'est impossible. Ils peuvent regretter, mais ils peuvent pas. Alors, là, c'est... Je ne sais pas quelle est la solution, mais j'attire l'attention sur cette grande difficulté et qu'il faut que dans les années à venir, on commence par la base, par le comité. On donne les moyens au centre pour qu'il développe toute cette action pédagogique et que peut-être par les livres, par l'école, par les nouveaux moyens de communication, on fasse comprendre aux gens que le patrimoine mondial est une notion pas seulement généreuse, identitaire, culturelle, c'est aussi ce que la Convention nous dit, c'est ce réseau de solidarité universelle où tout le monde sent que son patrimoine est l'égal de l'autre, quelle que soit son importance.